Nous revenons un moment sur la question du droit général et des droits spéciaux. Et pour en parler, je suis avec Maurice Bensadoun. Bonjour Maurice.
Bonjour monsieur le professeur.
Alors, cette question droit général, droits spéciaux, nous l'avons déjà évoquée, mais elle est importante et je voudrais maintenant la voir aussi avec l'œil du praticien et avec l'œil du praticien qui a travaillé sur l'élaboration de la réforme. Parce que cette question droit général, droits spéciaux, en 1804, on pouvait établir un nouveau droit commun des contrats. Il n'y avait pas la foule de droits spéciaux autour que l'on rencontre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en 1804, on n'avait pas un droit de la consommation, on n'avait pas un droit du travail avec, je ne prends que ces deux exemples-là, avec les très nombreux textes que nous connaissons. Et c'est vrai, cher Maurice, qu'aujourd'hui, quand on prend certaines des nouvelles règles qui résultent de la réforme, ce sont des règles qui ont été prises à des droits spéciaux, et qui ont été généralisés, je pense à le devoir général d'information qu'on a été prendre dans le droit de la consommation en réalité, je pense au droit des clauses abusives qu'on a été prendre aussi au droit de la consommation, en se disant que si ça marchait là et si ça s'appliquait déjà à de nombreux contrats, eh bien ce n'était pas mauvais de le généraliser. Alors on sait qu'après on ne l'a pas si généralisé que ça, parce que les clauses abusives par exemple, c'est finalement uniquement les contrats d'adhésion qui sont concernés. Mais on a finalement mis dans le droit commun des règles qui sont des règles qui s'appliquaient aux droits spéciaux, avec une difficulté, c'est que les règles du droit spécial sont encore là. Alors comment vont faire les entreprises pour s'y retrouver là-dedans, pour appliquer simultanément, s'il faut appliquer simultanément, les droits spéciaux préexistants qui ont été maintenus, puisque la réforme n'a pas remis en cause ces droits spéciaux, et ces règles générales qui ne sont pas forcément les mêmes, qui n'ont pas forcément le même champ d'application et pas forcément le même contenu.
Alors, c'est une très bonne question, bien évidemment. On s'est soucié de ça depuis le début. Je voulais faire deux rappels à titre liminaire. Le premier, c'est qu'il ne faut pas oublier que dans les objectifs de la réforme, et on nous a dit ça vient dans la tradition juridique française, le souci de la protection du faible, le souci de la protection de la partie faible était là. Deuxièmement, nous, pour ce qui concerne en tous les cas l'Association française des juristes d'entreprise, le groupe ad hoc a travaillé sur les contrats entre industriels, ce qu'on appelle le B2B en anglais. Et donc là, il n'y a pas vraiment de partie faible, puisqu'on a à peu près d'égale importance. Voilà, par exemple dans l'aviation, quand Airbus négocie la vente d'un avion à Air France, si vous voulez, je ne sais pas qui est la partie faible là-dedans.
Hein. Peut-être entre fournisseurs et distributeurs,
voilà. Là on mais est bon, moins... entre professionnels. Là où vous avez raison, c'est en 1804, il n'y avait que des règles générales. Je crois que c'est le doyen Carbonnier qui disait la constitution civile des Français, en fait. Et depuis 1804, il y a une kyrielle de droits spéciaux, de codes à la française qui se sont développés. Je me suis amusé, enfin, si on peut dire, à la fin du texte, à voir ce qu'on appelle les dispositions de coordination. Il y a plus de 39 codes qui sont touchés et 20 lois spéciales. Parce que vous vous rendez compte du travail que c'est à faire. Bien. Alors, une fois qu'on a dit ça...
Alors, quand vous dites qu'ils sont touchés, il faut préciser qu'ils sont touchés, mais qu'ils n'ont pas été adaptés. Ce sont les références. Voilà, c'est les références aux articles.
C'est la coordination, etc. Changement de vocabulaire, il faudra en parler aussi un jour. Modernisation du langage. Bien. Alors, pour nous, ce qui nous semblait évident, si vous voulez, et certains de vos confrères, d'ailleurs, l'ont écrit dès le début de l'année dernière, enfin, quand une fois le projet paru, il fallait mettre dans le chapitre liminaire, parce qu'il y a un chapitre introductif, un principe qui nous semblait clair, il ne faut plus le dire en latin, nous a-t-on dit, mais la règle spéciale l'emporte sur la règle générale. Et du point de vue juridique, ça crée une sécurité, c'est un des objectifs aussi pour les acteurs économiques, la sécurité juridique des transactions, la stabilité du droit, si vous voulez, il ne pouvait pas y avoir de conflit.
D'accord, alors, c'est un peu ce qu'on retrouve à l'article, si vous permettez qu'on le prenne, l'article 1105 du Code civil, donc deuxième et troisième alinéa. Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux, et surtout, les règles générales, alors c'est cette phrase qui dit des choses que l'on connaît déjà, les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières.
Alors, bon, effectivement, on l'aurait écrit dans l'autre sens, comme je viens de le dire, c'est-à-dire la loi spéciale l'emporte sur la loi générale, c'est ce qu'on a appris, y compris en latin, sur la base du droit romain. La solution qui a été choisie, je ne sais pas si c'est plus simple ou plus clair en français, si vous voulez, les règles générales s'appliquent sous réserve des règles particulières. Bon, sauf à faire une analyse très fine, voir s'il y a des interstices de différence, mais on va dire qu'on arrive à cette solution. En tous les cas, c'est ce que Mme Champalot m'avait dit à l'époque. Donc, de ce côté-là, on pense que nous, on nous a suivis, on a été entendus, si vous voulez. C'est quand même très important de ce point de vue-là.
D'accord. Donc, mais on n'a pas retenu, par exemple, il n'y a pas de critères. On nous dit s'applique sous réserve de ces règles particulières. La question, c'est est-ce que la règle particulière écarte la règle générale ou est-ce qu'elles vont être applicables cumulativement?
Bah, si vous voulez, la question des clauses abusives, par exemple, pour le B2B, pour les contrats entre professionnels, ça ne va pas nous gêner vraiment au jour d'aujourd'hui. Le devoir général d'information, on n'en voulait pas. Bon, mais on a dit c'est sous réserve des contrats d'adhésion, si je me rappelle bien.
Alors, le devoir général d'information, c'est tous les contrats.
Tous les contrats, voilà. Mais non, c'est sur les clauses abusives.
Les clauses abusives, c'est que les contrats d'adhésion.
Contrats d'adhésion, nous, dans le B2B, ça ne nous gêne pas. Il y a très peu de contrats d'adhésion. Je reprends mon exemple entre Airbus et Air France, parfois, c'est un contrat d'adhésion, si vous voulez. Il est évident que dans le droit de la distribution, dans le droit de la consommation, là, ça pose d'autres problèmes. Le devoir général d'information, bon, est-ce que dans les contrats techniques, dans les contrats à long terme, les contrats industriels, on a omis de révéler une information fondamentale entre gens de même compétence ou de même spécialité? Bon, sauf s'il y a quelque chose d'intentionnel qui a été fait, mais là, on n'est pas dans le droit normal, si vous voulez. Donc, normalement, on peut espérer que non.
Oui, dans la question, c'est vrai que sur le devoir général d'information, c'est plutôt si on a alors, soit contractualisé, soit dans un droit spécial des règles particulières sur l'information, est-ce qu'elles écartent le devoir général ou est-ce que le devoir général va s'appliquer par-dessus ces règles spéciales? Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir précisément avec vous, cher Maurice, voilà, les discussions qu'il y a pu avoir, sans révéler de secret particulier, les discussions qu'il y a pu avoir sur précisément ce type de texte, par exemple, puisque dans mon souvenir, d'ailleurs, dans le projet d'ordonnance qui est circulé, il n'y avait rien.
Il n'y avait rien, absolument. C'était une des remarques fondamentales. On en parlera peut-être à l'occasion de cette vidéo ou d'une autre. On a pointé, si vous voulez, sur 11 points majeurs de notre contribution, on nous a donné raison. Enfin, quand je dis on, pas seulement la FGE, mais la commission juridique du MEDEF ou de la FEP, qui avait à peu près le même genre de remarques, d'ailleurs, du point de vue des praticiens.
La question sensible, c'est 11 points majeurs sur combien?
Oh, il y en a deux ou trois sur lesquels on n'a pas eu gain de cause.
Très bien. Eh bien, cher Maurice, je crois que nous avons profité de votre point de vue sur cet aspect, cette distinction droit général, droit spéciaux, et je vous remercie.
Merci beaucoup.